les institutions européennes en général, disons au moins gouvernementales, ressentent l'obligation de respecter ou de ne pas brusquer ou de ne pas faire peur ou de ne pas énerver les populations, on va dire, qui causent la persécution. Donc dire que ce sont les chrétiens qui sont persécutés, c'est d'une certaine manière accuser les persécuteurs. Donc je crois que là, il y a une tendance, malheureusement, à, pour éviter d'attiser les tensions, pour éviter d'exciter davantage la situation, de un peu de la nier, on va dire, hein, et de, finalement de ne pas trop se plaindre. Parce qu'on a l'impression parfois que plus on se plaint d'une situation, même si elle est réelle et avérée, plus on la stimule et on la provoque. Donc c'est un peu la crainte en même temps. Et moi je crois qu'il est important que les nations, que les pays, les États, les gouvernements, très clairement, soient réalistes et prennent les mesures qui s'imposent pour protéger les populations victimes de persécutions religieuses. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le réalisme nous impose, nous oblige à reconnaître que ce sont essentiellement des chrétiens. Donc d'un côté, il y a un réalisme qui exige une prise de conscience et une certaine honnêteté intellectuelle et politique pour reconnaître effectivement que les chrétiens sont d'abord et avant tout les premiers, malheureusement, victimes de persécutions, et ensuite savoir imposer une politique. Je crois qu'on le fait sans problème aujourd'hui lorsqu'on parle par exemple de discrimination à l'égard des Roms ou ce qu'on appelait les Gitans. En Europe, on est très clair là-dessus, on est très clair sur les discriminations à l'égard des Juifs, ou des violences à l'égard des Juifs, de l'antisémitisme. On est très clair aussi sur les formes de violence à l'égard des communautés musulmanes lorsqu'elles sont en Europe. Je regrette qu'on n'ait pas le même courage et la même clairvoyance lorsqu'il s'agit des persécutions contre les chrétiens. Donc là, c'est navrant.
Alors justement, ce sont en partie les Britanniques et certains pays nordiques qui ont refusé de mentionner les communautés religieuses, donc de mentionner clairement lesquelles, donc les chrétiens, en arguant qu'il ne fallait pas en faire un choc des civilisations. Est-ce que ces pays-là craignent en fait de déplaire à certaines communautés, notamment la communauté musulmane ?
J'en suis convaincu en fait, hein, très clairement. Évidemment, il y a toujours une prudence qui est nécessaire en politique étrangère, mais cette prudence, elle a une limite. Je crois qu'à d'autres époques de l'histoire, lorsqu'il y a eu d'autres guerres, dans les années 30, avec l'Allemagne par exemple, ou le régime communiste, il y a toujours eu des personnes qui n'ont pas voulu accuser le communisme pour ne pas accroître les tensions. Je veux dire, il faut aussi savoir être sincère et honnête et courageux. On a face à nous une forme extrême d'une religion, d'une idéologie, on peut l'appeler comme on veut, en tout cas sa forme extrême, qui persécute clairement, malheureusement, je veux dire, on peut que le déplorer. Mais comme à l'époque, le communisme, dans sa forme extrême aussi, a aussi persécuté. Alors effectivement, à l'époque, on disait, oui, quand même, on ne va pas rendre la situation pire, donc on va être prudent, on ne va pas trop accuser les communistes pour ce qu'ils font. Je veux dire, je ne veux pas mettre au même niveau, évidemment, mais tout cela, mais la prudence, c'est aussi parfois un bon argument qui cache une forme de lâcheté, malheureusement. Il faut trouver le juste moyen, le juste niveau pour cibler ces problèmes concrets, qui ne sont pas des problèmes non plus démesurés, ce sont des problèmes qu'on peut essayer de gérer. Il faut en parler de façon raisonnable, de façon mesurée, de façon concrète. Et je crois que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, comme le Parlement européen, ont l'une et l'autre adopté des textes, des résolutions et des recommandations très concrètes qui posent le problème. Par exemple, comment se fait-il que dans tel pays, les messes soient interrompues par la police ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une protection particulière ? Aussi sur l'éducation, sur la tolérance, dans les médias, que disent les manuels scolaires à l'égard des chrétiens ? Il y a des choses concrètes qu'on peut aborder. Et je pense qu'il faut essayer de tenir cette ligne sans naturellement adopter une position volontairement conflictuelle. Parce qu'il faut aussi savoir refuser la manipulation ou l'instrumentalisation de la souffrance des chrétiens dans ces pays-là, pour un autre conflit. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, j'en suis convaincu, qui utilisent le fait que les chrétiens soient persécutés ou soient rejetés, etc., et qui utilisent la souffrance des chrétiens pour attiser certains conflits. C'est certain, les chrétiens sont utilisés comme vraiment, justement, le meilleur moyen d'attiser le conflit entre l'Occident et les pays musulmans. Il ne faut pas que nous en soyons dans cette logique, mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on abandonne ces populations. Donc il faut réussir à être ferme, à dire les choses clairement, mais il ne faut pas non plus être inconscient. Et je crois que là, l'Union européenne aurait eu la capacité de le faire. Et elle aurait été comprise. Je n'imagine pas que les gouvernants des pays comme l'Égypte, enfin pour ce qui reste, malheureusement aujourd'hui du gouvernement, il ne reste plus grand-chose, mais que les gouvernements des pays ciblés, comme même l'Algérie, le Maroc, etc., ne soient pas capables de comprendre ce message. Mais si l'Europe ne dit rien, si l'Europe laisse faire, il est évident que ça ne va pas aider la situation des chrétiens dans ces pays. Je crois que la peur est une réalité dans ces pays pour les populations chrétiennes.
Et puis en même temps, donc cette impossibilité de la part des institutions européennes à prendre clairement position risque en fait de les décrédibiliser.
Alors ça, c'est certain. On a vu la chose, effectivement, là, très clairement hier à Bruxelles. Quelle est la politique étrangère de l'Union européenne si on n'est pas capable de prendre position, ne serait-ce que pour condamner la violence? On en arrive quand même bien bas. Il s'agit ni plus ni moins que de condamner la violence terroriste contre des innocents. Si on n'arrive pas à le faire, c'est que vraiment on est tombé très bas dans la puissance politique. Et c'est tout à fait décrédibilisant.
Alors est-ce qu'il y a un décalage également entre la position des États et les opinions publiques?
Alors je crois que ce décalage est apparu de façon manifeste justement entre ce qu'a pu faire le Parlement européen, donc la capacité du Parlement européen à adopter un texte clair, précis, fort et en même temps concret, et l'incapacité des gouvernements d'adopter un texte. Au Conseil de l'Europe, c'est pareil, parce que le texte aurait dû être adopté, ils ont voulu absolument faire adopter un texte à l'unanimité, et l'exigence de l'unanimité des 47 États membres a conduit à l'adoption d'un texte très vide, en fait, hein, consensuel, mais vide. Donc oui, il y a un décalage entre l'opinion publique et les gouvernements. En même temps, les gouvernements ont une obligation de mesure et d'agir avec un sens politique. Mais bon, mon opinion, c'est quand même que nous avons assisté hier à une forme de débâcle, hein, de la politique étrangère européenne sur un sujet central. On peut trouver beaucoup d'excuses. Le contexte politique actuel au Maghreb et au Proche-Orient, le fait que ça pourrait avoir des conséquences aussi sur les populations musulmanes en Europe. Enfin bon, il y a toujours des raisons, des motifs adverses. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il soit suffisant pour justifier une absence totale d'action et un échec dans l'action.
Et c'est aussi au nom du principe de la laïcité, mais finalement, on s'écarte du sens même de du mot laïcité.
Bien sûr. Alors moi, je peux quand même faire remarquer que les pays européens, les gouvernements européens ont tous été présents pour condamner avec violence la Suisse lorsque le peuple suisse a voté contre les minarets, au nom de la laïcité. Alors là, effectivement, personne n'a eu peur pour condamner la Suisse. Tout le monde l'a fait. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe l'a fait avec force et vigueur, les États l'ont fait avec force et vigueur. Maintenant qu'il s'agit par contre de condamner une forme de violence physique, réelle, etc., il n'y a plus personne. Donc le secrétaire général du Conseil de l'Europe a lui aussi adopté une déclaration très vide, en s'empressant de faire remarquer que mais non, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont persécutés, mais tout le monde. Et puis, de toute façon, nos institutions sont laïques, donc nous ne pouvons pas prendre position. Je crois que c'est une erreur et une confusion complète de refuser de déplorer et de condamner les attaques terroristes au nom de la laïcité. Ça n'a rien à voir. La laïcité, c'est l'organisation des relations entre les institutions et la religion. En l'occurrence, maintenant, nous sommes face à un problème de droit de l'homme, un problème de respect de la vie, un problème de respect de la dignité des gens. Ce sont deux choses différentes. On ne peut pas, au nom de la laïcité, refuser de défendre les gens qui se font tuer. C'est pas possible. Simplement parce qu'ils se font tuer à cause de leur religion. C'est pas possible. Dans ce cas-là, très clairement, c'est un dévoiement de la notion de laïcité et c'est pas du tout approprié en l'espèce.